Et à 8h, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les négociations reprennent sur la future réforme des retraites. Les partenaires sociaux vont se succéder aujourd'hui et demain à Matignon pour une guerre de position. Le gouvernement veut se montrer ouvert. Avec quels arguments et quelles réactions des syndicats ? Nous y répondrons dans un instant.
La fin d'un faux suspense. Dans les rangs de La République En Marche, Cédric Villani est officiellement candidat dissident à la mairie de Paris. Nous analyserons ses chances face à Benjamin Griveaux.
Dans cette édition encore, zoom sur la décision iranienne du jour. Téhéran ne limite plus ses recherches sur le nucléaire.
Les députés britanniques ont contrecarré les plans de Boris Johnson. L'idée d'un Brexit dur s'éloigne et le Premier ministre est lâché par une partie des conservateurs. Nous avons rencontré l'un d'eux.
En Italie, le nouveau gouvernement des populistes et du centre-gauche prêtera serment ce matin. Une alliance inédite qui pourrait permettre un réchauffement des relations entre Rome et l'Union européenne. Nous verrons cela. Après ce journal, Frédéric Saïs reviendra sur le nouveau gouvernement en France avec ses deux récents entrants. Emmanuel Macron avait promis une équipe limitée à 15 ministres. Ils sont 37. Pourquoi ce genre de promesse n'est jamais tenue ? Frédéric Saïs nous le dira à 8h16 dans son billet politique. Mais d'abord, nous vous proposons d'aller visiter Paris et sa gare du Nord. Elle pourrait tripler de volume d'ici 4 à 5 ans. La SNCF, en tout cas, a un projet pharaonique avec la filière immobilière du groupe Auchan. Un projet à 600 millions d'euros qui prévoit d'implanter des commerces, une salle de spectacle, des espaces de travail, des bains-douches dans la gare. Cette semaine, une vingtaine d'architectes et d'historiens ont signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer ce projet dans la gare du Nord. Cécile de Kervas-Doué nous y emmène.
Aujourd'hui, 700 000 passagers transitent par la gare du Nord. Ils seront un tiers de plus dans 10 ans. La SNCF a donc prévu de tripler sa surface d'ici 2024, mais pas au profit du nombre de lignes, au profit d'une immense zone commerciale dont la SNCF, lourdement endettée, a confié la gestion au groupe Auchan. Un projet monstrueux, fustige l'architecte Roland Castro, qui a co-signé la tribune du Monde.
Ce que je déteste dans ce projet, c'est que on perd toute la poésie de la gare, parce qu'on ne rentre même pas à l'endroit où l'architecte m'a indiqué qu'on entrait. Vous avez une immense façade de gare, ben vous entrez sur le côté. Et après, vous faites un parcours, comme quand vous allez dans certaines boutiques de meubles, on vous oblige à passer par tout le circuit. C'est un truc classique ou formaté, comme si on allait à l'aéroport. N'importe où, on arrive à Paris et on arrive n'importe où.
D'autres projets de ce type ont été réussis, conseille des signataires. Mais à la gare du Nord, Auchan prévoit des passerelles commerciales en hauteur qui risquent de saccager un bâtiment pourtant classé monument historique depuis 1975, s'insurge l'historien de l'architecture François Loyer.
On peut s'étonner de voir qu'aujourd'hui, un élément majeur du patrimoine du 19e siècle soit bouleversé par des projets économiques sur un bâtiment qui ne peut pas résister à une telle violence. La plus effrayante, c'est l'énorme surface commerciale, certes vitrée, qui voudra être moderne, dont la seule et unique idée, ce n'est pas d'aider les gens à rentrer chez eux, mais de les obliger à dépenser leur argent dans un filtre où ils sont piégés comme des rats. C'est assez terrifiant.
De sources proches du dossier, le projet à l'aval du gouvernement et devrait donc passer, même s'il prend un peu de retard.
Le gouvernement promet d'écouter les Français et les partenaires sociaux. Il ouvre une nouvelle phase de discussion autour de la réforme des retraites. Réforme à haut risque politiquement, tant elle peut être impopulaire. Les rendez-vous à Matignon vont donc commencer aujourd'hui. Il s'agit toujours de supprimer les 42 régimes spéciaux en France et d'acter l'âge de départ à la retraite. Y aura-t-il un âge pivot à 64 ans ou un allongement global des cotisations ? Avant d'y répondre clairement, l'exécutif tente de charmer certains syndicats. Un syndicat en particulier, Annabelle Grelier.
Était-ce pour faire un appel du pied au patron de la CFDT, Laurent Berger, que le président Macron avait fait une petite volte-face fin août sur le recul de l'âge à la retraite ? L'intéressé, en tout cas, assure qu'il ne se fera pas amadouer avec si peu. Certes, la CFDT est le seul syndicat favorable à un système universel, mais Laurent Berger ne veut pas pour autant de recul de l'âge à la retraite, ni d'allongement supplémentaire de durée de cotisation. Pas besoin, estime-t-il. Pour donner son aval à cette réforme, ses conditions portent plutôt sur une pension pension minimum à 100% du SMIC, une retraite progressive ou encore la prise en compte de la pénibilité. Les autres syndicats ne seront pas aussi conciliants. Les plus durs à convaincre seront Force ouvrière et la CGT qui ont déjà assorti leur venue d'un préavis de grève. Force ouvrière est opposée au principe d'un système unique par points. Son patron Yves Verrier estime qu'on peut améliorer les dispositions dans le cadre des régimes existants. Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, tient le même discours. Il y a besoin d'améliorer ce système, mais pas de tout changer, affirme-t-il, jugeant que le système par points est injuste. Du côté du gouvernement, on répète à l'envi que depuis la crise des Gilets jaunes, on a compris la leçon. Plus de verticalité du pouvoir. Édouard Philippe assure que pour cette réforme des retraites, on va écouter, questionner, apprendre et tenir compte de ce qui aura été entendu. Reste à savoir quelles voix porteront et vers qui le Premier ministre tendra l'oreille.
Les premiers rendez-vous ont donc lieu ce matin. À partir de 10h30, la force ouvrière sera reçue. Rendez-vous qui vont s'échelonner ensuite sur 2 jours. Le corps d'un homme de 73 ans a été retrouvé hier dans une unité désaffectée de l'hôpital de la Conception à Marseille. Il s'agirait d'un patient qui avait disparu le 19 août dernier. A-t-il été oublié dans l'hôpital? Une enquête est ouverte. Comme beaucoup d'établissements, celui de la Conception à Marseille souffre d'un manque criant d'effectifs, précise déjà le responsable force ouvrière de l'APHM. Cédric Villani ne sera pas exclu de La République En Marche. Le parti de la majorité le précisait hier soir encore, après la candidature, pourtant dissidente, du député de l'Essonne pour les municipales à Paris. Lui promet d'être le premier maire véritablement écologiste de la capitale. Il ne faut pas tomber dans la division, dit le délégué général de La République En Marche. Toutefois, face à Benjamin Griveaux, candidat désigné cet été, le mathématicien Cédric Villani vient complexifier l'équation, Rosalie Lafarge.
Deux candidats pour un même parti dans une ville aussi clé, le pari est risqué et le perdant dans tout ça pourrait bien être le mouvement. La République En Marche abordait jusque-là ses municipales à Paris dans de bonnes conditions, fortes de ses scores aux dernières élections. Maintenant tout change, même si deux candidats, ça ne fait pas deux fois moins de chances de l'emporter, souligne Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
Cette élection, ne l'oublions pas, c'est une élection par arrondissement. Il faut avoir la capacité de parler à différents segments de la sociologie parisienne, tous les arrondissements ne se ressemblent pas, il faut être capable d'aller chercher des électeurs dans différents viviers électoraux. Et de ce point de vue-là, ils ne sont sans doute pas totalement à égalité. Ils vont sans aucun doute à la fois avoir une vraie compétition sur certains segments d'électorat et chacun d'entre eux une capacité à parler à certains segments plutôt qu'à d'autres.
Et puis les réserves de voix de Benjamin Griveaux ne sont pas les seules dans lesquelles Cédric Villani peut espérer piocher.
On imagine que du côté d'une certaine sociologie à Paris, une sociologie de classe éduquée, de profession scientifique, par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, d'universitaires, d'enseignants à Paris. Est-ce qu'ils ne vont pas être très intéressés par quelqu'un qui vient de leur rang, celui de la recherche scientifique? Et ça, par contre, ça peut venir en partie manger l'électorat qui pourrait avoir voté pour Anne Hidalgo ou pour une candidature socialiste.
De nombreux marcheurs regrettent en tout cas ce début de campagne où l'on passe plus de temps à parler des divisions que du fond. Et certains espèrent que les deux routes parallèles empruntées par Benjamin Griveaux et Cédric Villani déjouent toute règle mathématique pour finir par se croiser, de préférence avant le premier tour.
Un premier tour qui se tiendra le 15 mars prochain. Des soupçons de harcèlement à l'Assemblée nationale. Une réunion d'urgence va s'y tenir la semaine prochaine après des révélations de presse concernant Pierre Cabaret, député La République En Marche de Haute-Garonne. Selon France 3 Occitanie, il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel contre une ancienne assistante parlementaire.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'Iran annonce une nouvelle violation de l'accord sur le nucléaire de 2015. Il ne met plus de limites à la recherche sur le nucléaire.
Et il se dirige peu à peu vers un retrait de l'accord que les États-Unis avaient déjà quitté l'année dernière. Cette décision de l'Iran confirme l'échec pour le moment de la médiation française pour amorcer un dialogue entre Téhéran et Washington. Pas de discussion donc, et en attendant, l'Iran provoque, Franck Madvon.
Tous les 2 mois, l'Iran va un peu plus loin. Il a déjà augmenté ses stocks d'uranium enrichi et le taux d'enrichissement. Il va donc maintenant reprendre pleinement ses activités de recherche et développement dans le nucléaire. Aux yeux de l'Occident, ces violations de l'accord de 2015 rapprochent Téhéran de l'arme atomique. Elles sont perçues comme des provocations à Washington. Mais l'Iran a demandé aux Européens de les aider à contourner les sanctions américaines et estime qu'il n'y a aucun progrès. Au G7 à Biarritz, aux côtés de Donald Trump, Emmanuel Macron a laissé entrevoir un possible retour aux négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le plan français est connu, alléger les sanctions en échange de nouveaux engagements iraniens. Téhéran veut du cash, 15 milliards de dollars, indexé sur son pétrole, en clair pouvoir vendre à nouveau du brut à certains pays, mais les États-Unis refusent toute dérogation pour le moment, les discussions avancent peu et les stratégies ne changent pas, pression maximale sur l'Iran pour Washington, résistance maximale pour Téhéran.
Les votes s'enchaînent au Parlement britannique et avec eux les défaites de Boris Johnson. Hier dans la soirée, les députés de la Chambre des communes ont rejeté l'organisation d'élections anticipées à la mi-octobre, comme le proposait le Premier ministre. Un peu plus tôt, ces mêmes députés l'avaient contraint à renégocier un accord sur le Brexit avec Bruxelles, camouflé en série donc pour Boris Johnson, qui a vu une vingtaine de députés conservateurs lui tourner le dos. Parmi eux, Ed Vasey, il est député dans la région d'Oxford. Marie-Pierre Véraud l'a rencontré.
Rien ne disposait Ed Vasey, ancien ministre de la Culture, élu aux communes depuis 14 ans, à endosser le rôle de rebelle. Jusqu'à peu, il était même plutôt sensible aux arguments de Boris Johnson.
J'étais un fervent soutien de l'approche du Premier ministre. Si le Parlement continue à refuser de voter un accord, à un moment donné, il faut sortir de l'impasse et dire aux députés, si vous ne votez pas cet accord, nous sortirons sans rien, afin de les obliger à prendre une décision. C'est une stratégie que je respectais.
Mais voilà, le Premier ministre a décidé de suspendre le Parlement, ne laissant pas assez de temps aux députés pour éviter un divorce brutal avec l'Union européenne, un risque que refuse de prendre Ed Vasey. En deux jours, il a voté à trois reprises contre son Premier ministre. À peine plus de 50 ans, avocat de formation, notre député n'est pas traumatisé par son exclusion du Parti conservateur. Ses administrés l'ont bombardé de mails de soutien. Mais ce qu'il ne digère pas, c'est que le couperet est frappé des figures du parti.
J'ai surtout de la peine pour des gens comme Kenneth Clark, qui a été viré après 50 ans dans les rangs du Parti conservateur, et un bilan absolument remarquable. C'est humiliant de faire un tel coup à une personnalité d'une telle stature. Et ceux qui l'ont décidé sont à peine dignes de cirer ses chaussures.
Un affront que la famille conservatrice n'est pas près d'oublier. Les stratèges du 10 Downing Street ne mesurent pas la colère qu'ils ont déclenchée, met en garde le frondeur. Cela se paiera un jour.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture à Westminster. Le nationalisme a, dans l'ouest de l'Europe, du mal à convaincre en ce moment politiquement. Boris Johnson est en difficulté, nous venons de l'entendre. En Italie, c'est le chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui sort de l'équation gouvernementale. Le nouveau gouvernement est composé de 21 ministres, issus du mouvement populiste des 5 étoiles et du parti démocrate de centre-gauche. Ce gouvernement prêtera serment ce matin pour amorcer un travail en profondeur et pour éviter la récession économique. Olivier Tosseri.
L'Italie fait son retour en Europe. Le chef du Parti démocrate salue par ses mots la naissance du nouveau gouvernement. Le poste clé de ministre de l'économie est confié à l'un de ses membres. Roberto Gualtieri se lancera immédiatement dans l'élaboration du prochain budget pour empêcher l'augmentation de la TVA, instaurer un salaire minimum, mettre en œuvre un New Deal écologique et relancer les investissements publics. Il devra demander plus de flexibilité à Bruxelles. Il peut compter sur sa parfaite connaissance de ses arcanes en tant que président de la Commission des affaires économiques du Parlement européen depuis 2014. L'Italie, qui envisage en outre de proposer l'ancien président du Conseil Paolo Gentiloni comme commissaire européen pour un poste économique important. Enfin, sur le dossier délicat des migrants, le ministère de l'Intérieur a été dépolitisé en étant confié à une figure technique, un ancien préfet. Pour Matteo Salvini, désormais chef de l'opposition, il n'y a aucun doute, ce gouvernement est né entre Paris, Berlin et surtout Bruxelles, auquel il obéira aveuglément.
Nous évoquions ici même, avant-hier, l'accord difficilement tenable entre les Américains et les talibans en Afghanistan. Accord négocié sans la présence du gouvernement afghan. Eh bien, voici qu'une voix s'élève à Kaboul, celle du fils du commandant Massoud, légendaire chef de guerre afghan, tué deux jours avant le 11 septembre 2001. Ahmad, son fils, lance aujourd'hui une nouvelle ligue anti-taliban. Son portrait est signé Claude Guibal.
Il y a cette même barbe fine et taillée. Il y a ce même pacol, le traditionnel couvre-chef afghan. Une ressemblance troublante qu'Ahmad, le fils du commandant Massoud, a clairement choisi de cultiver en sortant de l'ombre, en appelant aujourd'hui les Afghans à se rassembler derrière lui. Un changement lié à l'imminence de la conclusion des pourparlers de paix menés au Qatar entre les États-Unis et les talibans, des discussions auxquelles l'État afghan n'a jamais été invité à participer. Un processus qui, selon Ahmed Massoud, porte en lui les germes d'un nouveau chaos, comme il l'explique dans cette interview à l'agence France Presse.
Notre crainte, c'est que ça les légitime. Ça va donner de l'espoir aux groupes terroristes du monde entier en leur disant « Allez-y, continuez, et nous, plutôt que de vous détruire, on va vous reconnaître comme interlocuteur, on va vous donner le pouvoir et ça, ça va leur permettre de mettre en œuvre leur idéologie extrémiste. On doit résister, on ne doit pas se résigner. »
Son souhait, continuer l'œuvre de son père, guérillero légendaire qui dirigeait la Ligue du Nord, une alliance de Moudjahidine ayant combattu les soviétiques puis les talibans. Ahmed Massoud veut aujourd'hui incarner cette nouvelle coalition, coalition politique, dit-il, mais sans exclure de devoir un jour rebasculer dans la lutte armée.
Et il lance donc aujourd'hui son mouvement politique. On apprend par ailleurs à l'instant qu'une forte explosion a été entendue dans le centre de Kaboul ce matin. Nous n'avons pas d'informations pour le moment sur d'éventuelles victimes. Nous revenons en France à présent pour quelques mots de la météo pour ce jeudi. Et la pluie s'étend sur le nord du pays, du sud de la Normandie jusqu'à la Lorraine ce matin, puis jusqu'à la Franche-Comté dans l'après-midi. Ailleurs, les nuages seront de plus en plus présents, notamment sur le Pays Basque. Comptez ce matin 15 degrés à Brest, 17 à Lille, Paris, Strasbourg, 19 degrés à Bordeaux et Lyon, 25 à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.